Merci donc d'être venu. Je vais expliquer comment la soirée va se dérouler. Donc ce soir, le sujet concerne sunnisme et chiisme en conflit en Afghanistan et au Pakistan. Donc, vous êtes assez nombreux et je pense que vous avez voulu saisir une chance d'avoir une approche un peu différente, enfin même très différente, je devrais dire, de celle qui nous est servie par exemple par les médias, puisque ce soir, deux éminentes spécialistes de ces questions vont s'exprimer. Je vais les introduire, les présenter très brièvement. Bon, ensuite, donc, Fariba commencera, elle parlera environ 30 minutes, elle sera suivie de Mariam, et la dernière partie sera consacrée aux questions. Donc, on fera une séance globale pour ce qui concerne les questions. Donc, tout d'abord, Fariba Adelka est directrice de recherche au CNRS. Elle est affiliée au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Elle travaille plus particulièrement dans le domaine de l'anthropologie politique et sociale. Et donc, elle s'intéresse plus particulièrement à l'Iran, au monde iranien, Iran et Afghanistan. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages. Bon, elle en avait publié un il y a quelques années sur la Révolution, qui était intitulé La Révolution sous le voile, et donc qui était une approche nouvelle sur la Révolution islamique en Iran. Après quoi, elle a publié plusieurs ouvrages, aussi bien des ouvrages spécialisés que des ouvrages sur l'Iran, donc pour un public plus large. Elle a également publié un certain nombre de, pardon, elle a dirigé également des ouvrages, en particulier un avec Jean-François Le Guil-Bayard en 2007, intitulé Voyage du développement, immigration, commerce, publié chez Cartala. Et aussi, elle est l'auteur donc de nombreux articles sur ces questions. Deuxièmement, Mariam Abouzaab, donc qui enseigne à l'IDALCO et qui, elle, a comme approche, je dirais, disciplinaire la sociologie politique. Elle est plus particulièrement spécialisée sur le Pakistan et l'Afghanistan. Elle s'intéresse donc à différentes thématiques, à commencer par le chiisme, plus particulièrement dans des régions du Pakistan comme le Pendjab et la province de Peshawar, donc Khyber Pakhtunkhwa, mais aussi dans le contexte afghan. Elle a également beaucoup travaillé sur les groupes djihadistes de ces régions, ainsi que sur les violences interconfessionnelles, donc en particulier entre sunnites et chiites. Elle co-dirige deux séminaires à l'EHESS, dont l'un qui est rattaché au Centre d'études de l'Asie du Sud et l'autre qui est rattaché à l'ISM. Mariam Abouzaab est l'auteur de nombreuses publications. Bon, elle a en particulier publié un livre coécrit donc avec Olivier Roy, Réseau islamique, la connexion afghano-pakistanaise, qui a été réédité et publié en anglais. Et bon, elle a aussi une approche particulièrement intéressante, bon, à travers la sociopolitique de toutes ces questions. Donc, elle est l'auteur de nombreux articles. En anglais et en français. Bon, je citerai juste quelques titres pour donner une idée de son approche. Donc, par exemple, il y a The Regional Dimension of Sectarian Conflicts in Pakistan, donc la dimension régionale des conflits sectaires au Pakistan, c'est-à-dire entre sunnites et chiites. Bon, elle a également consacré d'autres articles ou chapitres d'ouvrages à la politisation de la communauté chiite au Pakistan. Et enfin, des travaux ont été publiés sur les femmes et plus particulièrement sur les madrassas de femmes, donc pakistanaises qui vont étudier en Iran. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Fariba Adelka.
Merci Michel pour cette belle présentation. Merci à Bernard Héberger et Marie-Hélène Bailey de m'avoir associée à cette réunion également. Donc, je vais commencer par dire quand on parle de la société afghane, on parle comme une société victime de la guerre qu'il habite ou de la crise politique qu'il habite depuis environ, on pourrait dire, 40 ans. Donc, ça a commencé avec le coup d'État de 1972, le coup d'État de Daoud Khan contre son cousin. Donc, c'est une société victime. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce sont aussi les victimes qui font la guerre. En fait, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que la guerre a produit non seulement des destructions massives, elle n'a pas été seulement le lot de ces martyrs et de ces dégâts irréparables, mais c'est aussi un moment de changement. Donc, elle a fait rentrer dans la société afghane une nouvelle ère, on pourrait dire. Donc, elle a fait rentrer dans la société afghane une nouvelle ère. Donc, la société afghane est rentrée dans une nouvelle situation qu'il faudrait donc mesurer les conséquences pour savoir dans quelle situation nous nous trouvons. Il ne s'agit bien sûr pas de faire ici l'éloge des changements, encore moins l'éloge de la guerre, mais plutôt de voir ce qu'il a créé comme dynamique dans la situation et donc les transformations qu'elle a ainsi produites. Mon deuxième point, c'est tout de suite de peut-être pouvoir peut-être rafraîchir votre mémoire, quelques dates qui permettent de façon politique prendre la mesure de ces changements. Donc, comme je vous disais, 1972, le coup d'État de Daoud Khan contre son cousin. Mais en fait, il ne faut pas diminuer l'importance de ce moment parce que, d'une certaine façon, ce moment met fin à la période monarchique parce qu'on passe à la République. 1978, c'est la partie démocratique du peuple, les communistes qui prennent le pouvoir. Donc c'est les communistes qui prennent le pouvoir. Et là, ce moment aussi, c'est très important parce que finalement, on met fin au pouvoir depuis la nuit des temps pour l'Afghanistan, au pouvoir de Mohammadzai Kandahari en Afghanistan. Donc d'une certaine façon, avec l'arrivée au pouvoir des communistes, commence une nouvelle ère, qui est l'ère de djihad, donc, qui concerne toutes les forces politiques et toutes les forces ethniques afghanes. Et c'est un moment fondateur. Et donc la fin du pouvoir des Pashtun Kandahari et donc l'arrivée sur la scène politique de toutes les communautés ethniques, indépendamment de leur représentativité, de leur quota, enfin de leur pourcentage dans la société, de leur confession religieuse. 1992-96, c'est la prise de pouvoir par les Mujahideen. Et elle est importante, cette période, parce que c'est finalement dans la mémoire des Afghans, dans les souvenirs des Afghans, c'est le moment le plus dur. Étonnant, parce que les Afghans ne parlent pas des talibs comme étant un moment difficile. C'est la période Mujahideen. C'était une véritable guerre civile en Afghanistan. Donc, et un moment particulier parce que c'est aussi la deuxième fois où les Tadjiks prennent le pouvoir. Donc, c'est à la tête du gouvernement se trouve M. Rabbani. Deuxième fois, la première, c'était juste dans les années, en 1900, plus exactement 1929. Je pense que c'est ça, la prise de pouvoir par Kalekani, je me tourne vers Marjan, 1929 ou 39 29. Donc pendant 9 mois, Kalekani prend le pouvoir. Et donc en 1992-96, c'est le deuxième moment où on assiste au pouvoir des Tadjiks. 1996 et 2001, c'est donc bien sûr le pouvoir des talibs. Et depuis 2001, c'est Hamid Karzai, donc plus exactement de 2003, parce que c'est la date de son élection, Hamid Karzai au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour saisir ces changements, sur lesquels, donc, ces différentes périodes sur lesquelles je viens d'attirer votre attention, il faut saisir ces changements à d'autres niveaux. Et pour cela, j'aimerais justement parler des écoles, des madrasas chiites en Afghanistan. D'une certaine façon, mon angle d'approche ici, c'est d'abord une minorité, c'est la communauté chiite, et ensuite une pratique, une seule pratique. Donc je ne parle à aucun moment de l'islam, donc ça ne m'intéresse pas ici. Je ne parle que vraiment des écoles religieuses, à ne pas généraliser mes propos à la religion, à l'islam, etc. Donc finalement, par l'angle d'une seule pratique religieuse, les madrasas, et sur la vie communautaire d'une minorité chiite. Leur nombre est vraiment très difficile. Je crois que tout le monde connaît le problème des statistiques en Afghanistan. Leur pourcentage varie entre 15% et 30%. Donc vous voyez, du simple au double, ça dépend qui parle. Pour les Pashtuns, effectivement, il n'y a pas plus qu'entre 10 et 15% des Hazaras. Et Hazaras eux-mêmes évaluent leur pourcentage de 25 à 30%. Quelquefois, c'est vraiment la moitié de la ville de Kaboul. Et juste quelques mots sur les madrasas, si on arrive vraiment à résumer en quelques mots. En fait, les madrasas sont les institutions d'enseignement, c'est institutions de production et de transmission de savoir. C'est pas forcément religieux. Madrasa, c'est étymologiquement, c'est le mot arabe, c'est darasa, c'est apprendre. On y trouve dans ces madrasas, donc qu'en Afghanistan, ça correspond à des écoles religieuses, en Iran, pas forcément. On dirait plutôt, parlerait plutôt des hosas. En Asie, on utilise le mot madrasa, mais bon, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Dans le monde arabe, on l'utilise absolument pas du tout. Donc, le mot madrasa ici pour nous poursuivre ensemble, ce sont les institutions religieuses d'enseignement. Et on y trouve plusieurs niveaux à ces madrasas. Ils peuvent être des écoles coraniques, ça veut dire tout simplement l'alphabétisation. Ils peuvent être des enseignements intermédiaires, donc voilà, c'est des gens qui ont envie d'apprendre plus. Ou encore, aujourd'hui, les madrasas équivalent de plus en plus à l'enseignement supérieur. D'une certaine façon, on y rentre avec des conditions préalables, comme on rentre à l'université, bac, plus quelque chose. Donc, ça dépend des nombres d'années que vous réalisez dans ces madrasas. Ces madrasas sont créées facilement, quel qu'il soit le niveau auquel on s'intéresse. Ça peut être dans une maison particulière, ça peut être dans une mosquée, ça peut être, vous savez, l'Afghanistan, c'est le pays où il fait beau. On peut le faire dans les champs, dans les cours des mosquées, donc librement. Mais aussi dans des institutions bonnes et due forme. On peut trouver véritablement des institutions universitaires très, aussi modernes que les universités, j'entends par là, avec des salles de cours, des centres pour se loger, des espaces de communication, etc., des laboratoires de langue, espaces pour faire du sport, enfin, donc il y a d'autres. Donc l'exemple de ça aujourd'hui, peut-être l'école la plus moderne serait l'école de Khatam al-Nabiyyin, à la tête de laquelle se trouve Asif Mohseni, donc l'un des trois grands dirigeants chiites du pays. Et donc, pour vous dire la considération que lui il a pour son propre école, c'est intéressant. Il dit après Najaf, donc qui était la première base d'enseignement religieux, et ensuite Rome, qui était donc la deuxième, qui a pris le relais après Najaf, enfin qui n'a pas pris, qui a essayé de rentrer en compétition avec Najaf, il dit facilement qu'après Najaf et Rome, c'est bien le tour de Kaboul. Donc voilà, il a créé une école effectivement digne de faire la compétition sur la scène internationale. Notamment, il y a une salle dans cette même école qui est une salle où on peut avoir des grandes conférences avec la traduction simultanée, etc., ce qui n'existe pas en Afghanistan dans d'autres établissements. Il existait de ces écoles religieuses, leur nombre était environ de 4 avant, je dirais, la crise, la grande crise d'occupation russe. 4 écoles religieuses, 4 voire 5. Et aujourd'hui, on peut évaluer leur nombre à peu près entre 30 et 40. Je ne parle que de Kaboul. Encore, je dirais qu'il y a des écoles effectivement qu'on ne peut pas exactement connaître, encore une fois, la manque des statistiques, mais aussi il y a des écoles qui ne sont pas en bonne et due forme, ça veut dire au quotidien, mais à intervalles réguliers. Donc ce sont des cours qui se dispensent dans des maisons, dans des lieux, et donc ça prend sur la longue durée la forme, le statut d'une école, donc les gens sont attachés à ça. Qui sont les gens qui les dirigent? Donc, c'est, je dirais en principe, la grande majorité, ce sont ce qu'on appelle les djihadistes. Et les gens qui viennent aussi de l'immigration, qui ont fait des études religieuses à l'extérieur, mais aussi des hommes politiques, pas forcément des religions. L'essor des madrassas serait dû, d'une part, à cause, je dirais, de l'incapacité de l'État d'assurer l'enseignement, ça, enfin les moyens, j'entends, pas la capacité intellectuelle, les moyens qu'il peut avoir de créer des écoles dans bien des lieux. Donc voilà, c'est un lieu d'enseignement, d'apprentissage, d'alphabétisation. Et l'inaccessibilité de certaines, je dirais pour certains publics, de ces écoles sont créées dans les lieux où il n'y en a pas d'autres établissements. Le besoin, et ça finalement c'est un des facteurs les plus importants, le besoin de l'enseignement, notamment pour les milieux au retour de l'immigration, c'est les gens veulent aller à l'école apprendre, donc finalement il y a une demande, et il y a cette offre correspond à la demande de la société. Et la limite de l'enseignement supérieur également, parce que d'abord il est toujours resté très élitiste, et ensuite il y a un coût, il faut payer, surtout l'enseignement supérieur privé aujourd'hui. Dans les mains aussi toujours de djihadistes, c'est les mêmes djihadistes qui font des écoles religieuses, créent des enseignements supérieurs privés, et donc là il faut payer par semestre l'équivalent de 150-200 dollars, etc. Et puis la sécurité, il y a bien des gens qui n'aiment pas envoyer leur enfant loin dans des établissements, et ou alors qu'ils ne font pas confiance, et donc ils préfèrent justement que l'enfant, notamment pour les filles, se trouve dans des établissements religieux de telle sorte. Leur modernité, je ne vais pas beaucoup insister, puisque dans ma présentation, je vais en parler. Ce qui est intéressant à leur propos, c'est de dire qu'ils se sont généralisés à un public nouveau, c'est les femmes. Là, et ça n'existait pas. Je crois que récemment, vous avez pu entendre la naissance d'une école, une nouvelle à Kunduz, et donc ça fait peur à tout le monde, parce que c'est l'enseignement, l'éducation la plus radicale. Mais enfin bon, les femmes sont intégrées à ces espaces, ce qui permet de parler aussi des démocratisations de ces espaces d'enseignement religieux. Autre facteur de leur modernité, c'est qu'on n'enseigne pas seulement des éléments religieux, mais la langue, l'informatique, le sport, enfin donc c'est d'autres éléments viennent se surajouter à l'enseignement religieux. Et puis, ils se sont finalement, je dirais, associés à l'enseignement laïque, parce que c'est le modèle laïque qui prévaut dans ces écoles religieuses. On leur délivre des équivalents de diplômes. En faisant, finalement, en rentrant dans ces écoles, vous pouvez avoir la possibilité de poursuivre vos études à l'intérieur de l'université ou encore avoir des diplômes qui vous permettent de trouver du travail et donc continuer avoir une vie professionnelle. Et autre élément de modernité, c'est finalement la dimension, je dirais, internationale. Bien de ces écoles donnent la possibilité à leurs diplômés de poursuivre leurs études, par exemple en Iran. Ça ne vous fait pas rêver, mais quand on est afghan et qu'on a la famille en Iran, oui, et puis bon, c'est d'autres niveaux d'institutions religieuses, parce qu'on met souvent l'accent. Les autorités religieuses afghanes mettent souvent l'accent sur le fait, enfin, quand on leur demande pourquoi ils ne veulent pas retourner en Afghanistan et vivre en Afghanistan, puisqu'ils sont souvent à Rome ou à Najaf ou à Mashhad, ils disent souvent qu'on n'a pas du tout un public qui soit aussi exigeant que le niveau de savoir de ces grandes hommes. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux. Donc, poursuivre ses études en Iran, on peut dire que le bac plus 5, ça se fait en Afghanistan, et puis au-delà de 5, on va en Iran pour avoir droit à d'autres cours et d'autres possibilités de faire la recherche dans les domaines islamiques. Et puis, bon, les bourses, ils en avaient toujours. Des étudiants qui font les études religieuses, ils sont payés. Donc, ça, c'est vraiment, finalement un élément important de l'éducation religieuse. Mais c'est aussi de plus en plus, je dirais, l'éducation religieuse leur donne une autonomie par rapport au cadre national, justement parce qu'ils peuvent ensuite revendiquer des postes hors leur pays. Pourquoi est-ce que les fondateurs de ces écoles les créent, ce genre d'école? C'est important, juste quelques éléments, encore une fois, avant de commencer mon exposé, c'est les raisons religieuses. Donc, vous vous en doutez, on a la conviction, on les crée, mais il y a bien sûr d'autres raisons. Raisons économiques, vous pouvez, par exemple, mobiliser des fonds, faire venir plein d'argent, parce que vous êtes responsable de la construction d'une école, et vous pouvez effectivement utiliser ces fonds-là comme bon vous semble. Donc, d'une certaine façon, libéralisation et privatisation vous aidera aussi à investir de ces sommes pour créer d'autres possibilités de commerce afin de pouvoir subvenir à l'aide de ces écoles. Donc, une école, ce n'est pas seulement une école, c'est aussi des possibilités de créer des cadres qui vous permettent ensuite de subvenir aux besoins de l'école, besoins, j'entends bien, financiers de l'école. Ensuite, le blanchiment, cette fois-ci, peut-être de foi, je dirais, non pas d'argent, pour l'immigration qui a quitté l'Afghanistan, qui veut retourner. C'est aussi une façon de s'intégrer dans le pays en créant des écoles religieuses. Effectivement, vous créez aussi une certaine réputation. Et vous vous intégrez bien mieux dans l'espace, dans votre société. Le retour, par exemple, de l'immigré dans son propre pays où l'envoi de l'argent lui permet une certaine notabilité. Et il y a d'autres bénéfices encore, les bénéfices, on dirait, d'ordre notabilière, puisque j'ai mis juste l'accent dessous. Les fondateurs peuvent tirer des reconnaissances sociales, mais aussi des reconnaissances d'ordre électoral. Et les madrasés sont aussi les lieux de connexion avec la globalisation. Donc, ça vous permet justement des liens avec d'autres pays, mais aussi de délivrer un savoir-faire qui est un savoir-faire global, donc dans le domaine de la technologie, les communications, l'audiovisuel, etc. Alors, juste quelques mots sur... Bon, ce que je viens de dire sur l'Afghanistan, en fait, c'est pas du tout une situation particulière à l'Afghanistan. Quand on parle des écoles religieuses, quand on parle des madrassas, je crois qu'on est plus ou moins au niveau de... Enfin, on est en face de même évolution. Par exemple, les madrassas dans le monde, c'est l'exemple de la spécialité de Michel. En fait, les madrassas sont le fruit du moment colonial. C'est Barbara Metcalf qui en parle pour l'Inde. Mais pour l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, c'est aussi le moment paracolonial. Ça veut dire que c'est cette confrontation entre le pouvoir étranger, entre les modes d'intervention modernes, et puis les modes d'enseignement traditionnels qui existaient dans ces lieux. L'essor des madrassas, c'est en fait dans cette confrontation entre le moderne et le traditionnel, la confrontation entre le pouvoir étranger, le pouvoir national. Et les madrassas sont tributaires d'expériences transethniques et transnationales dans la mesure où finalement, que ce soit à Rome ou que ce soit à Najaf, où finalement ces écoles étaient les écoles dans lesquelles se trouvaient un ensemble de populations appartenant à des ethnies, des pays différents. Aujourd'hui, dans la ville de Qom se trouve une très grande école de spécialisation islamique qui est une école internationale où les dirigeants se contentent de dire effectivement il y a plus de centaines de pays qui sont présents, qui ont leurs représentants, parce que l'école comprend entre 15 000 et 20 000 étudiants étrangers. Et donc, les 20 000 étudiants étrangers, je crois, il faut dire, la moitié serait effectivement des étudiants afghans. Donc, ces écoles religieuses ne sont pas des écoles atemporelles et pluriséculaires, mais elles sont l'expression d'un changement politique, changement religieux, et finalement, ces changements auxquels, à la fois, elles sont résultats de ces changements, mais ces écoles contribuent à l'évolution de ces facteurs. Il faudrait juste se préserver, je dirais, quand on parle des madrassés, de dangers. Réduire les madrassés à ce qui est le cadre, je dirais, un regard, une approche théologique et qui se contenterait de voir un peu quels seraient les livres ou alors les religieux, les alems, les discours qu'ils ont, ou encore un autre regard qui serait le regard sécuritaire, regarder ces écoles religieuses comme étant un véritable danger pour la sécurité de la région. D'une certaine façon, pour moi, il s'agit de croiser des logiques à la fois internes à ces sociétés, ça veut dire voir un peu quels sont les conflits internes qui produisent, ce sont ces cadres d'enseignement qui permettent à ces lieux d'exister, de se distinguer des autres, à des communautés qui effectivement prennent le pouvoir, renforcent le pouvoir de certaines communautés. Donc il y a un cadre bel et bien, une logique bel et bien interne à ces sociétés, mais aussi une logique, je dirais, de relation avec son environnement régional et international. Si on parle par exemple de l'Afghanistan, ce serait le cas de l'Iran et de Pakistan. J'insiste d'autant plus sur ces facteurs à la fois internes et externes, parce que finalement, en parlant le débat sur la scène internationale, il diminue, il minimise, il sous-estime un peu tous ces conflits qui existent au sein de ces sociétés. Donc, entre d'une part les intellectuels religieux et de l'autre les intellectuels, je dirais, pour aller vite, laïcs. Finalement, tous les polémiques sur les chocs de civilisation font oublier que les premiers conflits avec les écoles religieuses n'étaient pas les conflits sur la scène internationale, mais les conflits à l'intérieur de ces mêmes sociétés. Donc, l'exemple, c'est finalement la société iranienne, puisqu'il y a même une journée aujourd'hui qui est marquée dans le calendrier iranien, c'est le rapprochement entre Hosé, ça veut dire les écoles religieuses, et l'université, ça veut dire l'enseignement laïque. Moi, je dirais que cette date, elle est vraiment importante parce qu'elle veut d'abord montrer que le débat ou la guerre ou la tension est finie, et de l'autre côté, c'est son souhait, bien sûr, de l'autre côté, parler effectivement nécessité de rapprochement, ça veut dire de ne pas poser l'un sans l'autre, l'enseignement laïque, l'enseignement religieux, sans son rapport avec l'enseignement laïque. Ces conflits à l'intérieur de cadre des écoles religieuses, elles se compliquent avec d'autres dimensions, je dirais, avec justement des conflits qui existent au sein même des écoles religieuses, entre les autorités religieuses, ou même avec les cortèges de fatwa et d'arrestation, de condamnation. Je crois que les moments importants, c'était avec le mouvement Bobby, les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'expérience de ces sociétés. Donc l'histoire de Bobby, c'était un des moments les plus sanglants, alors que le babisme, c'est une expression de revendication religieuse au sein même du chiisme. Donc, d'une certaine façon, ce sont des chiites. Bien sûr, il y a transformation, ils ne s'en revendiquent pas, mais ce seraient des chiites, puisque c'était des ulama chiites. À l'intérieur de la société afghane, on assiste aussi on a les mêmes facteurs, d'une certaine façon. On a ces conflits ou ces tensions, cette guerre entre les autorités religieuses. Par exemple, c'est l'exemple d'Ali Mohaqir Nasab en Afghanistan, qui aujourd'hui est un peu en exil. Il était d'abord en France, et aujourd'hui, je pense qu'il est parti au Canada. En fait, il était supposé d'hérésie pour avoir douté du bien fondé de peine de la lapidation à l'encontre des femmes adultères, ou encore de mort pour les voleurs ou les apostats. Donc c'est en 2003, c'est cette histoire de M. Mohaqir Nasab. La violence existait donc je résume, mais je vais vite, la violence, tant que je peux, la violence existait dans ces sociétés avant la montée de Al-Qaïda, telle qu'on l'a connue sur la scène internationale. Donc, il importe pour moi articuler ces deux niveaux de conflit, de violence interne et internationale, dans la mesure où finalement ils sont imbriqués et où les affrontements internationaux prolongent des conflits domestiques, en particulier autour de la question scolaire et la question de l'éducation. Si maintenant je reviens un peu encore en arrière en parlant de ces conflits internes, L'imbrication entre l'éducation laïque et l'éducation religieuse a donné lieu à la naissance d'une nouvelle catégorie des chercheurs hybrides. Alors, c'est effectivement ces chercheurs, c'est les Afghans qui sont partis faire des études en Iran et que petit à petit, par le biais de leur éducation religieuse, ils ont réussi des examens d'entrée à l'université. Et donc, du coup, ils sont aujourd'hui ces étudiants ou ces responsables, ces autorités religieuses avec double cursus, à la fois au cursus universitaire, donc spécialistes de sciences politiques, de sciences économiques ou encore de sociologie, de droit, etc. Mais en même temps, ce sont bel et bien des clercs et c'est eux-mêmes qui ont pris effectivement en charge la fondation des universités privées en Afghanistan. Donc ce sont finalement ces étudiants hybrides aujourd'hui qui sont à l'avant-garde dans la société afghane, mais c'est aussi ces mêmes étudiants hybrides qui étaient à l'avant-garde de cette société qui est rentrée en crise en 1979. D'une certaine façon, les islamistes en Afghanistan ont recruté au sein des universités, c'était pas au sein des rosés, des madrasés, ils n'existaient pas à cette époque. Massoud ou Hekmatyar sont effectivement des gens qui faisaient leurs études en tant qu'ingénieurs au sein de l'université de l'enseignement religieux, des éducateurs et de l'université de Kaboul. Donc les madrasés, d'une certaine façon, ce sont les partenaires des institutions éducatives étatiques depuis la chute des talibans, par le biais, effectivement, d'abord, on peut parler vraiment de partenariat public-privé, une autre facette de partenariat, mais par le biais, effectivement, de la création de ces écoles privées, de ces écoles religieuses qui donnent un système d'équivalent aux étudiants pour pouvoir ensuite continuer leurs études au sein de l'Université de Kaboul et puis donc pour les débouchés. Sans pouvoir restituer toute la richesse des études disponibles sur les madrasas consacrées à leur évolution, j'aimerais ici donc souligner quelques acquis de ces écoles. Juste pour finir sur cette idée de leur particularité de ces écoles religieuses, donc les deux facteurs sur lesquels je voudrais insister. D'abord, le lien complémentaire de ces écoles religieuses où qu'on soit finalement avec l'enseignement laïque, donc c'est ça qui est finalement très important. Ensuite, le fait que l'enseignement religieux, face à la modernisation et face à l'occupation étrangère, n'avait absolument pas la même façon de répondre. Selon qu'on est d'un pays à l'autre, si vous voulez, selon l'expérience historique des pays, mais aussi au sein même d'un seul pays. Donc, je voulais insister sur le fait d'éviter la radicalisation ou la généralisation de l'expérience des talibans ou l'école d'Eobandi, une partie de l'école d'Eobandi, c'est vraiment un pourcentage minime à l'ensemble de cette expérience, à cette évolution des écoles religieuses, donc sur lesquelles je reviendrai. Donc maintenant, pour résumer mon propos, mon propos était de dire que l'évolution des écoles religieuses dans la société afghane était d'une part liée à des facteurs internes, donc cette interaction entre éléments internes et externes, et puis facteur international, une expérience historique des Hazaras avec l'Iran. L'expérience qui a commencé à la fin du siècle dernier, un peu forcée de quitter l'Afghanistan à cause des politiques, d'une situation politique de crise, c'est la prise de pouvoir par Abdurrahman, qui effectivement, il a une politique en faveur des Pashtuns. Les Hazaras quittent l'Afghanistan, ils s'installent dans les bordures frontalières de l'Iran, et petit à petit, c'est à Mashhad qui se trouve dans des écoles islamiques. Donc ça, c'est la tradition de lien entre l'Afghanistan et l'Iran, lien, je dis bien encore, lien religieux entre l'Afghanistan et l'Iran. Donc, ce sur quoi je voulais arriver avec ce papier à la fin, c'est que finalement, le départ des Afghans vers l'Iran et leur inscription dans les centres d'éducation religieuse renforce cette population finalement très déshéritée, très démunie et je dirais très discriminée, cette population Hazara, qui a dont l'exil vers l'Iran date d'une centaine d'années. plus de 100 ans, donc 1893. Donc, c'est ce qui est important, c'est qu'au terme de cette immigration, qui commence en 1993 et qui se renforce à partir de la prise de pouvoir de Daoud Tran en 1972, donc aujourd'hui, on parle d'une population afghane en Iran à peu près d'entre 2 millions et 3 millions. On ne pourra jamais, encore une fois, avoir des chiffres exacts de ça, parce que d'abord, il y a énormément de va-et-vient. Ensuite, aussi, le fait que beaucoup se sont intégrés, donc la société iranienne était pendant la guerre. On a une population sunnite qui augmente dans les bordures frontalières. La demande de passeport peut-être n'est pas évidente, mais finalement, ce sont des populations qui peuvent se passer de demande de passeport, donc qui sont des populations de crues. On pourrait difficilement différencier cette population des populations qui sont installées sur la bordure frontalière. J'entends bien la région de Khorasan et la région de Sistan et de Baloutchistan. Donc aujourd'hui, il y a à peu près entre 2 millions et 3 millions Afghans, donc selon... de façon officielle, selon l'expression qu'ils ont. Donc, ces Afghans se sont renforcés par cette émigration, se sont alphabétisés dans les écoles religieuses, et au retour d'émigration, donc une bonne partie d'entre elles sont en va-et-vient et d'autres se sont installées dans la société afghane. Et au retour dans la société afghane, c'est cette force, en fait, cette pouvoir d'éducation qu'ils ont de mettre en avant. Et au travers de la création des écoles privées, au travers, que ce soit des écoles religieuses ou pas, au travers de la création des universités privées, effectivement, ils se sont petit à petit dispersés. Et donc, c'est cette revendication aujourd'hui en tant que minorité, et étant non seulement éduqués, mais étant très forts, avec des cadres ou des bases, je dirais, quand vous allez aujourd'hui en Afghanistan, à Kaboul notamment, il y a toute la région de l'est de Kaboul, de l'ouest de Kaboul, qui est occupée par la population chiite Hazara. Donc, cette population qui, grâce au soutien ou peut-être à l'immigration, très douloureux par bien des moments, je ne suis pas en train de... donner des atouts au pouvoir iranien ou ni à la société qui les a pas toujours très bien reçus. Mais finalement, au fil des temps, la population afghane sur la longue durée a pu finalement avoir accès à une éducation qui lui a permis au retour de demander sa part de pouvoir. Donc, le lien avec l'Iran, il est très intéressant parce qu'il a produit un double effet. D'abord, renforcement de la population Hazara au sein de la société afghane. Ensuite, son autonomie par rapport à l'Iran, parce qu'il demande son intégration dans la situation, dans le cadre politique afghan. En fait, voilà, c'est finalement tout le paradoxe sur lequel, enfin peut-être l'intérêt de cette étude sur laquelle je voulais mettre l'accent dans un travail un peu long et peut-être pas aussi digeste, c'est cet effet un peu très paradoxal. Les Afghans sont liés à l'Iran à cause justement de l'immigration. 2 millions, 3 millions Afghans vivent aujourd'hui en Iran. Ils sont mariés, ils ont du travail, ils sont installés pour certains et ils ont eu l'accès à l'éducation. Donc ils restent liés à cette université de l'enseignement religieux, en partie. Et donc, au retour dans la société afghane, il s'est produit deux choses. D'abord, renforcement de cette populité, la prise de conscience, la sortie de la minorité, si on peut le dire un peu d'une autre façon. Et donc, ça demande de l'intégration dans le cadre politique de la société afghane. En fait, la chose la plus intéressante par rapport aux Iraniens, c'est cette dépendance, je dirais... Le couteau à double versant, en fait, ça produit un double effet, à la fois cette dépendance, puisqu'ils sont des chiites, mais en même temps, le fait de demander leur intégration au sein de la société afghane, en fait, ils mettent en avant leur autonomie par rapport au pouvoir iranien. Et c'est quand même intéressant que le thème qu'il reprend par rapport aux Iraniens qui ont pris les Velayat et Farid, donc gouvernement de jurisconsulte, les Afghans mettent en avant plutôt le taqrib, ça veut dire le rapprochement entre sunnites et chiites, pour la simple raison qu'il ne s'agit que d'une seule minorité, d'une minorité, et que pour pouvoir exister au sein de la société afghane, il faudrait effectivement travailler avec la population sunnite. Et donc, j'en avais 5, je pense que je l'ai dépassé, mais juste pour... l'évolution des écoles religieuses, donc ils se sont développés certes parce que le besoin de la religion, mais aussi parce que ce sont des écoles globalisées, ce sont des cadres d'enseignement, ce sont des lieux d'intervention ou d'intégration des femmes, ou parce qu'ils sont ouverts tout simplement au savoir global. Et merci bien, je suis désolée.
Merci beaucoup Faïba pour cet éclairage stimulant à partir des madrassas. Vous avez employé un certain nombre de notions qui sont très intéressantes, comme par exemple chercheur hybride. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion des questions et réponses. Bien, maintenant nous allons écouter Mariam Abouzaab, donc qui va cette fois parler du Pakistan à travers le rôle de l'État, la construction de l'autre, la compétition pour occuper l'espace public, et en particulier en analysant deux cas de figure, donc l'un à Quetta et l'autre aussi des émeutes qui sont produites récemment pour Moharram à Pindi.
Merci beaucoup et merci à l'ISM d'avoir organisé cette conférence et de nous avoir donné la possibilité de parler de ces communautés chiites qui sont mal connues et dont les médias, en fait, ici parlent assez peu. Alors, pour commencer, il faut quand même rappeler que ce qu'on oublie souvent, le chiisme n'est pas uniquement iranien ou arabe, et qu'en Inde et au Pakistan, il y a des communautés chiites qui sont démographiquement très importantes. Alors, les chiffres, bien sûr, c'est extrêmement sensible et tabou, donc on ne peut pas donner de chiffres, on a des estimations. Une estimation basse concernant le Pakistan, qui a 180 millions d'habitants, est 15%. Alors même 15% de 180 millions, ça fait quand même du monde. Et une estimation plus haute est 20%. Bon. Donc vous voyez que ça représente quand même beaucoup de monde, entre 25 et 30 millions de personnes, et qu'il y a probablement à peu près autant de chiites en Inde, pour autant qu'on puisse l'évaluer. Ceci étant dit, est-ce qu'il existe au Pakistan véritablement un conflit qui peut être défini comme un conflit entre sunnites et chiites? Je dirais que non, que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et nous savons très bien que les conflits ne sont pas confessionnels au départ, mais qu'ils le deviennent. On sait ça, on l'a vu sur beaucoup d'autres terrains. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est pourquoi les différences existent. L'existence des différences n'implique pas forcément qu'elles soient la cause de violences politiques ou confessionnelles. Et ça n'explique pas non plus pourquoi la violence apparaît à un certain endroit, à un moment donné de l'histoire et pas à un autre. Donc je dirais que c'est la politique et les intérêts qui ont transformé et radicalisé les identités plutôt que l'inverse. Bon, mais ça, c'est très difficile de faire passer ce message. Mais bon, au moins sur mon terrain pakistanais, c'est la réalité. On est dans un pays qui a été créé à partir de la théorie des deux nations, hindous et musulmans. Et c'est là qu'avait en germe le problème. À partir du moment où le Pakistan crée pour les musulmans, la question va se poser de savoir qui est musulman. Et on va régler ce problème au départ en faisant des campagnes contre les Ahmadis et en faisant déclarer les Ahmadis non musulmans en 1974. Et ensuite, on va se tourner vers d'autres communautés. On est dans un processus d'une société qui est en train de s'auto-purifier. S'auto-purifier de tout ce qui faisait son islam traditionnel tel qu'il s'était développé, de tout ce qui est vu comme hindouisme. Je dirais qu'on est dans le post-hindouisme et que les chiites sont maintenant devenus en quelque sorte les hindous du Pakistan. Bon, je vais m'expliquer, revenir là-dessus. Donc le pays a beaucoup changé depuis les années, début des années 70, depuis les premiers séjours que j'y ai faits, parce que j'ai une histoire de 40 ans avec ce pays et avec le pays voisin aussi. La société est extrêmement différente de ce qu'elle était à l'époque. À l'époque, on avait une société tolérante où il n'y avait pas de tentative organisée d'imposer une interprétation spécifique de l'islam. Des extrémistes, il y en avait, mais ils étaient à la marge de la société. Il y avait bien sûr des différences entre sunnites et chiites. C'était des problèmes surtout de théologiens qui ne concernaient pas la population. Il y avait des incidents pendant les processions chiites de deuil de Moharram, mais c'était un peu rituel. Chaque année, il y avait quelques incidents et puis c'est tout. Ça s'arrêtait, ça n'allait pas au-delà. Il y avait des intermariages. Il y avait des rites qui s'étaient indianisés et auxquels tout le monde participait. Les processions de Muharram, les rites d'Ashura n'étaient pas vus comme des rites spécifiquement chiites. C'était quelque chose qui faisait partie de la culture locale, auquel tout le monde participait et qui n'était pas vraiment marqué chiite. Après 1971 et la sécession du Bangladesh, bon, n'oublions pas que c'est un pays dans lequel la majorité de la population a fait sécession. On voit toujours le Pakistan oriental comme tout petit, oui, certainement, en superficie, mais la majorité de la population était bengalie, et c'est bien ça tout le problème, c'est bien pour ça qu'ils ont fait sécession. Après 1971, le discours sur la construction de la nation est devenu beaucoup plus introverti. Et on a reconstruit des barrières idéologiques très étroites. Et ça a donné lieu à un nationalisme totalement négatif, violent, militariste, qui voit des ennemis partout sur chaque frontière. Et qui voit aussi à l'intérieur, dans toute revendication d'autonomie des provinces, le syndrome Bangladesh, une volonté de détruire le pays. À l'époque donc de Zulfikar Ali Bhutto, donc dans les années 70, Bhutto a commencé à utiliser tout ce symbolisme de l'islam, il l'a beaucoup utilisé, pour créer un imaginaire d'ordre islamique. Bon, parce qu'il avait face à lui une opposition qui, à l'époque, était virulente et formée de partis religieux. Et donc, il a recherché une légitimité dans l'islam face à cette opposition. Bien sûr, on sait que dans les années 1980, avec la politique d'islamisation du général Zia-ul-Haq, dans un contexte bon, qui est bien connu, je ne fais que citer... la révolution iranienne, bien sûr, qui était allée de pair avec le programme d'islamisation de Zia, qui a été mis en place exactement en même temps, avec le soutien de l'Arabie saoudite. Une rivalité Iran-Arabie saoudite qui s'est jouée au Pakistan. La guerre Iran-Irak qui s'est jouée au Pakistan, parce qu'elle a été instrumentalisée et réinterprétée comme une guerre entre sunnites et chiites. L'implication du Pakistan au Cachemire, ensuite l'implication pour islamiser le conflit du Cachemire qui au départ n'était pas un conflit religieux. Bon, énormément de choses ont fait que beaucoup d'éléments très complexes ont fait que dans les années 80, on a eu un changement complet et l'utilisation d'un islam sunnite de rite hanafite comme instrument d'homogénéisation, de contrôle et de légitimation pour le régime militaire. Le Pakistan est devenu, j'ose dire ça, une société pieuse et hypocrite, et il l'est toujours, avec une religiosité bon, qui se voit, qui s'exprime, mais évidemment derrière, bon, vous savez bien, c'est le fameux proverbe sur l'éléphant qui a deux rangées de dents, hein, une pour montrer et une pour manger. Donc on est toujours dans la schizophrénie en permanence, mais c'est comme ça. En plus, on en est conscient, mais on ne fait rien pour que ça change. Donc, il y a tout un discours qui est... Bon. À l'époque, donc on était dans une islamisation d'État, une islamisation sunnite, hanafite. Ça a mobilisé les chiites, ça les a fait entrer dans le champ politique. Ils ont été instrumentalisés par l'Iran et ils ont mis longtemps avant de comprendre. Il a fallu jusqu'au milieu des années 90... pour comprendre qu'ils avaient été utilisés par l'Iran pour des intérêts nationaux iraniens et que finalement c'est eux qui ont payé le prix avec les violences qui suivaient. Sous la période de démocratie avec des guillemets dans les années 80, sous les gouvernements de Benazir Bhutto, de Nawaz Sharif, et y compris sous le gouvernement à partir de 99 du général Musharraf, on a coopté le clergé systématiquement sans rien faire pour essayer de calmer, de repousser un peu cette vague de fondamentalisme religieux. Et maintenant, on arrive à un point où tout ce qui peut être des questions politiques ou sociales sont construites dans un langage purement religieux et où il faut sans arrêt prouver non seulement qu'on est musulman, ça ne suffit plus depuis longtemps, mais qu'on est un bon musulman. Alors évidemment, que veut dire bon musulman? C'est encore une définition assez complexe. Bon, donc plusieurs générations ont été socialisées dans une orthodoxie entre guillemets religieuse et ont internalisé tout un discours islamique, aussi bien en termes de politique intérieure que de politique extérieure. Et c'est une socialisation qui minimise complètement la notion de Pakistan comme un État-nation territorialisé et qui crée une globalisation, une militarisation de l'imaginaire. Et ça a des conséquences, parce que ça veut dire que ce qui est important, c'est l'identité musulmane plutôt que l'identité pakistanaise. Il n'y a vraiment qu'un Punjabi qui va se dire pakistanais et se ressentir comme tel. Donc on a un État qui n'a pas réussi à créer une nation, donc on cherche une autre identité qui est plus valorisante. Une identité aussi transnationale, dans laquelle on voit des racines moyen-orientales qui seraient plus pertinentes que des racines sud-asiatiques. Ce que je disais tout à l'heure, s'auto-purifier de sa propre culture. Et ça, c'est partagé par la diaspora aussi. Les visites qu'on fait au Pakistan vont réaffirmer et renforcer cette identité musulmane pour ceux qui vont se sentir aliénés dans une société occidentale. Donc on a tout un discours de victimisation et on est victime dans le monde entier, les musulmans pakistanais sont particulièrement victimes. La théorie des complots, les complots indo-américano-sionistes pour détruire l'islam, pour détruire le Pakistan. Et à partir de là, à partir du moment où on construit ce discours de victimisation et où on construit l'autre, on va faire une différence vis-à-vis de l'Ouest. Et il est très facile après de faire une différence en construisant un autre à l'intérieur du pays, un autre qui va être l'autre chiite et qui va être présenté comme l'agent de l'impérialisme et qui va être présenté comme l'agent de l'Iran. C'est très facile de passer de l'un à l'autre. Je ne vais pas vous parler de l'arabisation, saoudisation, middle-easternisation du Pakistan. C'est très intéressant. J'ai présenté un papier au Pakistan il n'y a pas longtemps là-dessus. Il va être publié. C'est assez délirant et ça s'aggrave de plus en plus. Donc ça, c'est dans l'espace public et dans le mode de vie, dans énormément de choses. Ça va jusque dans les publicités à la télévision. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait général. Donc je laisse ça, mais ça, c'est le résultat de toute cette socialisation et de cet imaginaire qui est un imaginaire transnational et de Oumma, et la responsabilité aussi qu'on se sent de défendre les musulmans persécutés partout dans le monde entier, non, puisque on a été un pays qui a été créé pour l'islam, etc. Je voulais aussi insister sur la compétition entre les groupes religieux dans l'espace urbain. Parce que l'urbanisation aussi est quelque chose qui est très intéressant à étudier. Il y a une urbanisation qui est très importante, extrêmement rapide, totalement incontrôlée, où on a Karachi qui doit avoir au moins 20 millions d'habitants, mais on a aussi beaucoup d'autres villes. On a Lahore, on a d'autres villes qui ont, au Punjab, qui ont énormément, qui se sont développées énormément de manière anarchique, pour toutes sortes de raisons, à la suite de la sécheresse, des inondations, des conflits, pour plein de raisons. Et on a des populations qui se retrouvent, des populations rurales, souvent qui se retrouvent urbanisées de force, qui sont à la périphérie de la société, qui vivent à la périphérie de la ville, qui n'ont pas accès à ce qui est vraiment... On a le même problème en Afghanistan avec les déplacés internes. Donc rejoindre, quand on est dans cette situation, rejoindre un groupe religieux crée une identité, une solidarité, un sentiment d'appartenance, on connaît très bien tout ça. Et donc la religiosité a beaucoup à voir, la religiosité qu'on affiche, l'uniforme qu'on va porter, la couleur du turban, la longueur du chalwar, du pantalon, tout cela, la façon dont votre barbe est taillée, ça vous donne une identité, ça, vous faites partie d'une communauté, votre vie a du sens. C'est aussi extrêmement valorisant parce que vous pouvez, dans une société où être jeune, c'est parfois difficile de s'affirmer, ça permet de pouvoir donner des leçons à des personnes plus âgées puisqu'on parle au nom de l'islam, qu'on a donc une légitimité. Alors tout cela, toute cette mobilité sociale liée aussi au madrasa, hein, et pour les filles c'est vraiment très net aussi, bon, j'ai écrit là-dessus, ça c'est autre chose. Ça a aussi un effet, non seulement entre les différentes communautés religieuses, mais à l'intérieur de la communauté sunnite, entre Deobandi et Barelvi, ils sont un islam fondamentaliste et réformé, et un islam traditionnel qui est autour du soufisme et du culte des saints. Les Barelvi sont devenus de plus en plus les victimes aussi des violences religieuses. Les chiites sont eux aussi en compétition avec les autres pour occuper l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu se développer depuis la révolution iranienne et qu'on voit se développer encore maintenant plus en réponse aux violences. Les processions de Moharram et d'Ashura, qui autrefois réunissaient tout le monde, y compris des hindous, sont devenues un moyen d'affirmer son identité et un moyen de mobilisation sur une base sectaire, mais au sens anglais de sectaire, c'est-à-dire sans que ce soit péjoratif. Bon, traditionnellement, les sunnites ne faisaient aucune fête pendant le Moharram. Maintenant, il y a des gens qui se marient exprès pendant les 10 premiers jours de Moharram. Ils cuisinaient de la nourriture qui était distribuée, ils donnaient à boire aux flagellants, au long des rues, enfin, et ils participaient. Il y avait simplement les flagellations physiques qu'ils ne faisaient pas, mais pour tout le reste, ils participaient. Et avant 1947, les hindous aussi. Donc les rites étaient indianisés et tout le monde, voilà. Après, bien sûr, la révolution iranienne, les chiites ont eu, bon, ça a eu une influence émotionnelle, psychologique considérable sur les chiites pakistanais, ça leur a donné une nouvelle visibilité, ça, il y a eu toute une génération de gens qui ont dit, bon ben voilà, maintenant on peut faire la révolution ici et maintenant, et donc là on a eu, comme on a eu ailleurs, comme en Afghanistan, comme au Liban, on a eu ce problème de génération entre les vieux, on va dire les chiites noirs, qui restaient à pleurer dans les mosquées en attendant le retour de l'imam caché, et puis les chiites rouges qui disaient non, c'est ici et maintenant, et il faut changer le monde. Bon, donc là, il y a eu ce conflit de génération. Et donc l'occupation, une occupation très, très, très forte de l'espace, et les processions sont devenues quelque chose qui maintenant ne concerne plus que les chiites. C'est devenu une occasion de compétition pour le statut à l'intérieur des communautés chiites et une réaffirmation de la supériorité des croyances chiites et de la dévotion vers la famille du prophète. Donc c'est très ostentatoire. Il y a de plus en plus de jeunes, d'adolescents, voire d'enfants qui vont se flageller. C'est un rite de passage, un rite de masculinité. Mais on commence de plus en plus jeune, on le fait de plus en plus. On participe en grand nombre aux processions pour montrer qu'on n'a pas peur des attentats et pour montrer qu'on est prêt à mourir pour sa foi et pour réaffirmer son identité chiite. Donc évidemment, ça entraîne bien entendu des réactions qui sont de plus en plus violentes de la part certains groupes sunnites. Alors, la construction de l'autre dans ce cadre où il y a une intolérance de plus en plus grande envers l'expression publique d'une foi religieuse. Alors, vous avez tout un discours qui va vous dire, il faut interdire, ça fait longtemps qu'on dit cela, il faut interdire tous ces rassemblements publics et ces processions, parce que, tout cela cause toutes sortes de problèmes pour les gens, et notamment c'est très mauvais pour le commerce, parce qu'ils font les processions à l'intérieur du bazar, et ça oblige le bazar à fermer pendant 3 jours, vraiment c'est pas acceptable. Bon. Oui, en disant aussi que ça n'est pas quelque chose qui va apporter de l'harmonie, ni de la stabilité, ni de l'ordre, mais qu'au contraire, ça ne fait que revisiter des rivalités religieuses très anciennes, et que donc ils n'ont qu'à faire ça à l'intérieur de leur lieu de culte, puisque les autres communautés font des processions à l'intérieur de leur lieu de culte. Ce qui n'est pas vrai pour les sunnites de Barelvi, qui font aussi des processions dans la rue. On a donc une extension donc du discours de victimisation et l'universalité du message de l'imam Hussein sur lequel on insistait énormément autrefois, qui était un point de convergence, maintenant c'est plus du tout ça. C'est vu comme toute la dévotion vers la famille du prophète, c'est vu comme une hérésie, c'est vu comme le fait d'adorer, donc c'est vu comme du shirk, l'associationnisme, d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. L'imam Hussein est décrit systématiquement comme un imam chiite, Karbala comme une tragédie pour les chiites, et les gens vous souhaitent de bonnes vacances d'Ashura, ce qui est quand même très très choquant, mais voilà. Puis c'est l'occasion, c'est très bien. Quand vous avez 3 jours, eh bien vous pouvez aller avec votre famille à Murree, et puis voilà, vous êtes bien, bien tranquille. Bon. Il y a tout un discours sur les Hazaras de Quetta, et on va, c'est très important dans ce discours-là. Alors, on a, Fariba avait parlé des Hazaras de Quetta, il y a à peu près 500 000 Hazaras à Quetta. Quand les médias, ici en Occident, en parlent, ça arrive, enfin, ils en parlent quand il y a 100 morts ou des choses, sinon on n'en parle pas. Il y a des morts tous les jours. Il y a des gens qui se font tuer tous les jours à Quetta. Parce qu'ils sont chiites et parce qu'ils sont Hazaras et parce que les Hazaras ont un type physique très particulier qui fait qu'on les reconnaît. Bon. Les Hazaras de Quetta sont, pour la plupart, ceux qui sont visés essentiellement, sont des Hazaras qui sont des Hazaras pakistanais et qui sont particulièrement patriotes et qui sont venus donc à partir de 1893 quand ils étaient persécutés en Afghanistan. Et qui étaient donc là, ils sont venus se réfugier dans le Baloutchistan britannique. Ils sont entrés dans l'armée britannique à l'époque déjà, et puis c'est une tradition. Et ils connaissent très bien leur histoire. Ils disent oui, mon arrière-grand-père dans l'armée britannique des Indes, et puis mon père, et puis moi aussi. Bon, donc il y a cette tradition-là, c'est gardé. Et ensuite, eh bien, ils ont investi dans l'éducation énormément, et ils ont progressé. Par cet investissement dans l'éducation, et aussi beaucoup ont fait du commerce et ont vraiment prospéré. Donc, bien sûr, ça ne peut que poser problème à partir d'un moment. Et il y avait très peu de violence, voire pratiquement pas de violence organisée de grande ampleur contre les Hazaras de Quetta jusqu'en 2004. Les violences confessionnelles au Pakistan entre sunnites et chiites, elles ont commencé à la fin des années 80, après 1988, au Punjab et à Karachi. Elles sont restées limitées à ces régions pendant longtemps. Il y avait deux lieux de tension qui étaient le nord, la région de Gilgit, où là, il y avait autant de problèmes là, je parle sous le contrôle de Michel, entre ismaéliens et chiites duodécimains qu'entre chiites et sunnites. Bon. Et puis, il y avait dans les zones tribales, où il y a une tribu qui est entièrement chiite, la tribu des Touris à Parachinar, et d'autres tribus dont certains lignages sont chiites, et où il y avait de temps en temps des violences, mais des violences qui étaient instrumentalisées par l'État, et dans les années 80 notamment pour des raisons qui étaient tout à fait particulières et liées à la guerre en Afghanistan. Mais Quetta était relativement calme. Il n'y avait pas ce genre de violence. Et c'est après l'invasion de l'Irak, c'est là où on a commencé à avoir un discours qui a changé, à cause du rôle joué par les Hazaras en Afghanistan. Les Hazaras en Afghanistan ont été décrits systématiquement par tous les groupes extrémistes sunnites pakistanais comme soutenant les Américains en Afghanistan. Bon, effectivement, il n'y avait pas de guerre dans les régions Hazaras, puisque les Hazaras ne faisaient pas la guerre aux Américains, ce qui était objectivement vrai. Donc il n'y avait pas de raison qu'on les bombarde. Et puis, bon, il y avait aussi toute une attitude des chiites irakiens par rapport aussi à la présence américaine qui gênait beaucoup de groupes extrémistes sunnites au Pakistan. Et donc on a commencé à décrire les Hazaras de Quetta comme une cinquième colonne de l'Iran, financée par l'Iran et agissant pour des intérêts iraniens. Bon. Et ils se sont donc complètement abandonnés par l'État, totalement. Et on a construit un discours pour les rendre responsables de leur sort et dire qu'ils le méritent. Ça, on construit ce discours-là aussi pour d'autres chiites ailleurs, et bien c'est de leur faute. Après les dernières émeutes pendant le Ashura au mois de novembre dernier à Rawalpindi, quelqu'un avait lancé sur Twitter un hashtag en disant pourquoi il faut tuer les chiites. Et bon, on a tous contribué. On a à peu près une centaine de raisons. C'est pas mal, c'est assez intéressant et assez inattendu, mais enfin, au moins, on a tous les préjugés, absolument tous les préjugés qu'on entend couramment dans la société pakistanaise, y compris dans les milieux urbains éduqués. Là, donc, il y a cette façon de les rendre responsables. Et c'est de leur faute, ils le cherchent, ils n'ont qu'à faire leur procession à l'intérieur et personne ne les tuera. Bon. Donc, on les rend responsables de la violence, ce qui va les priver de leur position morale supérieure et de victime. Parce que là, on n'a pas affaire, on n'est pas dans le sud Liban avec le Hezbollah, on a des martyrs combattants. Non, on n'a pas de martyrs combattants. on a des martyrs, on ne peut pas appeler victimes puisqu'ils sont martyrs, mais on a des martyrs par injustice. C'est complètement différent. Et on a surtout beaucoup de femmes et d'enfants. Et des vieillards, des femmes, des enfants, des jeunes, des gens d'absolument de tous âges, et qui ont pour simple tort d'être Hazara et d'être chiite, puisque c'est revendiqué par un groupe extrémiste sunnite. Et on a aussi un discours qui est un discours concurrent et tout un débat en disant « ils ne sont pas tués parce qu'ils sont chiites, ils sont tués parce qu'ils sont Hazara, c'est un nettoyage ethnique ». Et ce débat-là est complètement ouvert et ne termine pas. Parce que s'ils sont Hazara seulement, ils peuvent être victimes. Ils peuvent pas être à la fois chiites et victimes. S'ils sont chiites, ils sont responsables de leur sort. Donc il faut avoir un contre-discours disant « c'est un problème ethnique ». Sauf que tout ce qu'on a comme littérature, comme mise en garde qui avait été adressée avant les grands massacres de janvier et février 2013, était tout à fait clair. Ce sont des groupes extrémistes sunnites qui voulaient purifier encore une fois le Pakistan, disant ces Hazara chiites sont impurs et donc ils ne peuvent pas vivre dans ce pays. On leur donne jusqu'à la fin 2012 pour partir, sinon ils verront, on les tuera. Et ensuite, après le premier massacre de Quetta de janvier 2013, les massacres de masse, où il y a eu plus de 90 morts sur le champ, plus tous ceux qui sont morts après. Et évidemment, les chiffres de victimes ne sont jamais clairs, puisqu'il y a beaucoup de blessés qui meurent après et qui ne sont jamais décomptés. Ces gens ne sont pas partis, ils ont préféré leur bien à leur vie, eh bien, on va donc les exterminer. Et donc, le discours continue sur ce point-là. Le groupe, Lashkar-e-Jhangvi, pour ne pas le nommer, qui groupe extrémiste sunnite, revendique dans tous ces massacres, non pas contre les Hazara en tant que groupe ethnique, mais contre les Hazara en tant que chiites. Et c'est un groupe qui tue aussi des sunnites barelvi, des chrétiens, des ahmadis, des ismaéliens, et qui maintenant veut s'en prendre au kalash de Chitral, vous voyez, et qui s'en prend aux sikhs aussi, qui a décapité un certain nombre de sikhs, donc il fait vraiment tous azimuts, toute minorité quelle qu'elle soit. Je vous passe tous les citations, les messages qui étaient donnés, enfin pour... Oui, purifier le Pakistan de cette secte impure. À la suite de ces massacres de masse, on a parfois une mobilisation un peu pendant quelques jours, surtout après les deux massacres de Quetta qui avaient fait beaucoup de victimes, où les familles étaient restées, les femmes et les enfants notamment, en plein hiver, dans la rue, pendant 3 jours et 3 nuits, avec les corps, en refusant de les enterrer, tant que le gouvernement n'interviendrait pas. Là, on avait vraiment refait Karbala, quoi. C'est quelque chose de très important, de revisiter le paradigme de Karbala. Et il y a donc des sit-ins de tous les milieux libéraux, partout, dans toutes les villes, qui vont aller dire « oui, nous sommes tous Hazara, bon, ok ». Ça dure 48 heures, et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose très très vite au Pakistan. Donc ça ne dure jamais. Et on va toujours avoir aussi un effort après coup, et ça c'est tout le rôle des médias. J'ai pas le temps d'entrer dans le détail sur les médias, c'est pourtant très intéressant. Tout le discours médiatique pour nettoyer un petit peu tout ça, et donc on ne dit pas, on vous annonce quelqu'un avec un nom extrêmement chiite a été tué, on vous dit pour une inimitié personnelle, ou alors vous avez de la façon de dire parce qu'il appartenait to a particular sect. Bon, d'accord, tout le monde comprend, mais on refuse de dire que c'est sectarian, que c'est quelqu'un qui a été tué parce qu'il était chiite, même quand c'est tellement, tellement évident et tellement clair. Donc dernière chose très, très grave et qui est liée aux médias, c'est que systématiquement, maintenant, les médias vont toujours, toujours dire la minorité chiite. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que ça veut dire que là, vous les excluez, si vous les marginalisez, vous les excluez de la communauté musulmane, dans le contexte pakistanais. C'est vrai, ils sont une minorité démographiquement. Mais dans le contexte pakistanais, quand on dit minorité, on pense minorité non musulmane, ça va de soi, ça va avec. Donc si systématiquement vous ne parlez des chiites qu'en disant la minorité chiite, vous êtes en train de les exclure. Ça veut dire que c'est une victoire du discours sectaire dans un pays où l'identité nationale est centrée sur un Pakistanais, c'est un sunnite hanafite. Ça veut dire que les minorités, les chiites, sont exclus d'une communauté morale symbolique, qu'on reconstruit une umma imaginaire dans laquelle il n'y a pas de place pour eux. Et il y a des choses vraiment très surprenantes. Il y a quelques mois, après un attentat assez grave à Karachi, où des gens avaient été tués à l'intérieur de leur maison. Donc là, c'était des femmes, des enfants, parce que quand vous prenez une rue très étroite, un dimanche après-midi, quand les gens sont chez eux, regardez la télévision, et que vous mettez un camion piégé dans une rue très étroite, ben vous avez toutes les façades des immeubles qui tombent et les gens qui meurent à l'intérieur. Donc ils sont même pas en sécurité chez eux, dans leur maison, dans un quartier totalement ghettoisé. Et ensuite, il y a eu sur les blogs des choses intéressantes. Et il y avait notamment un blog qui a suscité énormément de réactions, et on s'est tous mis dans le débat parce que c'était intéressant. Un jeune homme avec un nom de Sayed Chiite, vraiment très 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 marqué, et qui écrit sous le titre « Quand est-ce que nous nous souviendrons que le blanc dans le drapeau pakistanais représente les minorités ?» Et il faisait allusion donc à une attaque dans un quartier chiite. Alors évidemment, ça a énormément choqué. L'utilisation surtout par un chiite du terme minorité, et des gens ont essayé d'expliquer, oui mais c'est parce que vu ce qu'ils subissent, ils se sentent traités comme les minorités, etc. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et ça a lancé tout un débat. Maintenant, le groupe sunnite qui est le plus extrémiste a changé de nom de multiples fois, parce qu'en théorie il a été interdit, mais il est toujours aussi actif. Et le nom qu'il a adopté n'est pas du tout anodin. Le groupe qui s'appelait autrefois le Sipa et Saba s'appelle maintenant Ahle Sunnat wal Jamaat. Ahle Sunnat wal Jamaat, ça veut dire les sunnites, la communauté sunnite tout entière. C'est le nom par lequel se désignaient les sunnites Barelvi au départ. Donc ça veut dire qu'ils prétendent parler au nom de l'ensemble de la communauté sunnite. Ce n'est pas du tout anodin d'avoir pris un nom comme ça. Donc, vous voyez, on est dans une situation d'intolérance grandissante, de massacres qui ne s'arrêtent pas. À Quetta, on tue les élites de la même façon qu'on avait tué les élites chiites au Punjab il y a 30 ans. C'est-à-dire les médecins, les avocats, ça c'est vraiment la cible, première cible, les commerçants prospères, les enseignants, les dignitaires religieux, c'est la première cible. Là, c'est systématique. Et les gens qui font de la politique, et à Quetta, les militaires et les policiers, puisque les Hazaras étaient particulièrement bien représentés dans cette... Et je voulais dire deux mots, parce qu'on peut revenir dessus dans les questions, sur les massacres, les émeutes qui ont eu lieu en novembre dernier, le jour de Ashura, à Rawalpindi. Alors, c'était très intéressant parce qu'Ashura tombait un vendredi, c'était pas arrivé depuis 1988, et bien sûr, c'était quelque chose d'extrêmement sensible. Alors, on décide... de la date de Ashura en regardant le croissant, etc. Et évidemment, on aurait pu peut-être faire un peu pression sur ceux qui regardaient le croissant pour que Ashura tombe le jeudi. Ça aurait peut-être été plus sage, mais enfin, ça n'a pas été fait. Donc, on savait que c'était extrêmement sensible. Et dans un quartier de Rawalpindi qui est connu pour héberger une mosquée, madrasa, appartenant à ce groupe extrémiste sunnite, où il y a toujours des tensions et où la procession chiite devait passer, en théorie, à 3h de l'après-midi, donc bien après le prêche, qui devait se faire beaucoup plus tôt. Bon, et puis, évidemment, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Qui est responsable? La police a brillé par son absence, que les policiers ont peur ou soutiennent. Donc n'ont rien fait, et ça a dégénéré très vite. Et le récit qui a été construit était très intéressant. Moi, j'étais pas bien loin de là, quelques kilomètres de là, et ben je recevais, moi j'étais sur Twitter et autres, et évidemment je recevais énormément de choses. Et je renvoyais et je discutais. Les récits étaient absolument incroyables. Les récits qui ont été faits, étaient, bon, certains chiites étaient contents, c'est la première fois que les chiites enfin réagissent et puis bon, font le coup de poing aussi contre ceux qui les attaquent, très bien. D'autres étaient, ce sont des chiites qui ne sont pas des chiites locaux. Donc on a tout de suite décidé que tous les chiites qui étaient là étaient des gens qui venaient de Gilgit, Baltistan, et des zones tribales de l'agence tribale de Kouram. Donc c'était pas des locaux, c'était des jeunes qui viennent d'ailleurs, on les connaît pas, on sait pas d'où ils viennent, ils sont venus pour faire du tort à notre quartier, des discours sunnites. Bon, le bazar, a été incendié, enfin, ça a pris, il y a eu couvre-feu pendant plusieurs jours, enfin, ça a été quelque chose de vraiment... Bon. Les récits qui ont été faits étaient très intéressants, y compris des récits propagés par des chiites. Les chiites sont entrés dans la mosquée, la madrasa, et ils ont décapité les enfants sunnites. Et on dit 50 enfants sunnites ont été décapités avec les couteaux qui servent pour les flagellations. C'est totalement ahurissant. Mais c'était propagé par des chiites. Ils ont jeté des Corans par terre. Ça montre que les chiites ne respectent pas le Coran. Le Pakistan est un pays esclave des chiites, etc. Les bas-relevis les ont soutenus. Et de toute façon, les chiites ont le soutien des libéraux, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël, bien sûr, aussi. J'ai collecté énormément de choses sur les forums ce jour-là parce que c'était extrêmement intéressant. J'ai pas encore exploité tout ça, mais c'est assez extraordinaire. On a eu aussi des photos montées, enfin, on a eu plein de choses et énormément de rumeurs. Et le rôle de Facebook, des faux comptes qui avaient été créés sur Facebook quelques jours avant, de tout cela en planifiant cet événement était vraiment quelque chose qui mérite d'être étudié. La façon dont dont tout ça a été manipulé. Voilà. Alors, il n'y a pas de counter-narrative, quoi, de discours religieux qui aille à l'encontre de ça. Le problème, c'est que on a une résignation face à la violence. On a une tendance à toujours blâmer la victime qui est responsable de son sort. On a une tendance aussi, bien sûr, la main de l'étranger. Hein, c'est ça. Bon, des musulmans ne pourraient jamais faire ça. Donc, c'est toujours la main de l'étranger. Alors, la main de l'étranger, quand on dit un pays voisin, un pays voisin, c'est l'Inde. Hein, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Là, on avait vu des Ouzbeks récemment à Quetta. Vous savez, on attaque les bus de pèlerins qui vont en Iran. Régulièrement et pas dans des endroits perdus en plein désert, hein, à 30 km de Quetta sur la grande route, un endroit où il y a des et en plus ils viennent en convoi avec des paramilitaires et autres. Bon, donc on les attaque en toute impunité. Ah, on a trouvé des Ouzbeks qui étaient responsables de l'attaque des bus de pèlerins. Bon, c'est totalement absurde, ça n'a aucun sens à cet endroit-là. Donc toujours l'étranger, la main de l'étranger, c'est de la faute de la présence américaine en Afghanistan. Bon, dire que c'est un contre-coup de la présence militaire américaine en Afghanistan, c'est faux. Dire que le jour tout ira bien quand le Pakistan ne soutiendra plus les États-Unis, c'est faux aussi. Dire que tout ira bien quand les États-Unis auront quitté l'Afghanistan, c'est archi-faux, parce que ça veut dire que là, il y aura au contraire, sur le terrain pakistanais, une recrudescence et avec un sanctuaire en Afghanistan, comme ces groupes avaient trouvé un sanctuaire en Afghanistan à l'époque des talibans. Donc ce n'est pas vrai. Mais que faire pour mettre fin à tout cela ? On est arrivé à un point où... oui, il y a une telle résignation, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne peut plus arrêter et qui fait partie du discours et qui est en quelque sorte accepté. Voilà, et je terminerai juste pour ceux d'entre vous là qui comprennent l'ourdou, juste une ligne en ourdou, parce que ça fait partie aussi de ça. « Sunahe bohat sastae vahan khun, ek basti hai jiselo kweta kehte hain. » Hein, j'ai entendu dire qu'il y a un endroit où le sang est très bon marché, c'est un endroit qu'on appelle Quetta. Et je le fais en pensant à toutes les victimes de Quetta, et surtout parce que parmi les victimes du 10 janvier 2013, il y avait un de mes amis, qui était un militant des droits Hazara, mais militant pour les droits de l'homme partout, pour les droits des femmes, pour quelque chose, Irfan Alihoudi, toujours je pense à lui, et... C'était tout à fait la victime innocente et Mazloum qui était vraiment... voilà.
Merci.
Merci beaucoup, Mariam, pour cet exposé très éclairant sur les chiites au Pakistan et en particulier à Quetta. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut un peu mettre en miroir vos deux interventions, parce que finalement, elles étaient centrées sur une population d'origine afghane, enfin principalement les Hazaras. Donc nous devons mettre un terme à cette session. Nous remercions Fariba et Mariam. Merci beaucoup et bonne soirée.